Bonsoir à tous, chers auditeurs de Radio Courtoisie, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de prolongation. Exceptionnellement ce soir, votre émission n'est pas présentée par Stanislas Rigaud, qui s'excuse, qui est retenu par le travail. Donc j'ai l'honneur et la chance de le remplacer. J'ai le plaisir d'être avec Pierre Galland, habitué de cette émission. Bonsoir Pierre, comment allez-vous ?
Très bien.
Autre habitué de cette émission, retardataire bien sûr, mais habitué tout de même, Emmanuel de Beaumugne. Bonsoir Emmanuel, vous allez bien ?
Bonsoir Etienne.
Vous arrivez pile à l'heure.
Donc je ne suis pas retardataire.
Oui, ça ira pour cette fois. Et nous accueillons un petit nouveau, j'ai pas peur de le dire, un débutant, Emmanuel Picot, en votre qualité de responsable GZ Île-de-France. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Étienne, merci pour cette invitation. Ça va super et vous ?
Bah ça va très bien. Ce soir, messieurs, d'abord bien sûr, je vous rappelle que Radio Courtoisie est une radio qui ne vit que de vos dons. Radio Courtoisie est un média entièrement libre. Donc n'hésitez pas, si vous appréciez les émissions diffusées sur Radio Courtoisie, notamment celle-ci, n'hésitez pas à faire des dons à Radio Courtoisie pour permettre la croissance et de ce média libre et indépendant dans la France de 2026. Nous allons parler ce soir évidemment largement de ce qui s'est passé à Lyon hier soir, jeudi. Vous savez qu'un jeune militant qui participait à la protection de Némésis lors d'une intervention de Rima Hassan a été tabassé à mort par des militants antifascistes. Le jeune homme qui s'appelle Quentin est toujours entre la vie et la mort à l'heure actuelle. Il serait en mort cérébrale. C'est donc un sujet évidemment très lourd qui relance le sujet de la violence en politique, notamment de la violence chez l'extrême gauche. Donc nous allons en parler ce soir. Nous en parlerons notamment avec Édouard Bina, le directeur de la Cocarde étudiante et par ailleurs ancien élève de Sciences Po Lyon, qui connaît très bien l'écosystème politique et étudiant lyonnais, et qui pourra nous donner sans doute quelques éclaircissements à ce sujet. Avant d'accueillir Édouard Bina, un premier tour de table sur ce drame qui a beaucoup secoué évidemment les sphères militantes aujourd'hui. Emmanuel de Beaumugne, vous avez appris la chose, j'imagine, comme nous ce matin. Quel a été votre premier sentiment ?
Forcément, une grande tristesse et un peu de d'effarement, parce que même si, et on l'a dit, certains médias, certaines personnalités de droite l'ont dit, l'extrême gauche nous a habitués à cette violence, là elle prend une forme particulièrement grave, donc ça c'est la première chose. C'est vrai que c'était un événement assez banal finalement, c'était en marge d'une prise de parole, je crois, de Rima Hassan. Donc
une conférence, oui.
Voilà, à Sciences Po Lyon. Ce happening, en fait, du collectif Némésis est une méthode relativement fréquente, ça n'avait rien d'exceptionnel, et ça avait provoqué quelques heurts, mais assez légers. Et en fait, on se rend compte que, mine de rien, la violence de l'extrême gauche, au fil des années, s'aggrave, et que leur impunité produit ce genre d'actes. Donc c'est évidemment ça le premier sentiment. Et puis par ailleurs, il y a aussi par rapport à la presse et au traitement médiatique, j'ai vu en arrivant un article du Monde qui était relayé par Eric Tegner, qui taisait complètement la réalité des faits pour évidemment renvoyer la balle au fantasme de présumé de l'extrême droite. Donc un article assez ignoble, et c'est forcément ça aussi qui fait peur et qui attriste. Et on espère que le traitement sera plus favorable dans les jours à venir. Et par ailleurs, il y a un dernier élément qui m'a frappé, c'est les premières vidéos de la joie des étudiants qui accueillent Rima Hassan.
Ouais.
Enfin, une espèce d'effervescence très troublante, parce que quand on la connaît, on se dit, quand on voit ses prises de parole, on ne s'attend pas à ça, évidemment. Et à côté, cet acte absolument dramatique. Et on se dit, il y a deux France irréconciliables, c'est dans la même ville, au même endroit. De la même tranche d'âge, c'est assez effrayant.
Oui, toujours. Merci Emmanuel. Alors je m'adresse à l'autre Emmanuel, ça va être un peu compliqué de jongler avec les deux ce soir. Emmanuel, vous êtes vous-même un militant, un responsable militant. C'est devenu dangereux de militer à droite en France en 2026 ?
Écoutez, apparemment c'est devenu dangereux. C'est vrai que c'est quand même problématique aujourd'hui de se rendre compte que un happening, comme disait Emmanuel, peut finir dans des circonstances dramatiques comme celle-là. Moi, ce qui me marque particulièrement, c'est que des happenings en Île-de-France, il y en a déjà eu, et j'ai des amis qui sont déjà partis faire de la sécurité pour Nemesis, donc je connais, c'est des gens qu'on connaît, donc c'est aussi pour ça que c'est profondément choquant, comme ce que disait Emmanuel. Ça devient dangereux, maintenant, on n'a certainement pas prévu de baisser les bras, et dans tous les cas, on continuera, mais c'est vrai que ça, en tout cas, ça nous pose des problèmes, pardon, pour les prochains événements, et c'est vrai que du coup il va falloir que l'État réagisse quand même assez rapidement, ce qu'il n'a pas fait, il me semble, aujourd'hui. J'ai pas vu de réaction officielle de l'État.
Oui, bon. je crois pas que la préfecture ait pris parole. Il y a une enquête qui a été ouverte quand même, a priori pour l'instant agression, sans doute peut-être pour tentative d'homicide involontaire, en tout cas au moins ça. Pardon. Il y a quand même beaucoup de responsables politiques qui ont pris la parole, y compris d'ailleurs des responsables de gauche et l'extrême gauche. On parlera tout à l'heure des liens très profonds qui existent entre les agresseurs de Quentin et la France Insoumise, bien sûr. On parlait de Rima Hassan tout à l'heure.
Après, il semblerait qu'ils aient pris la parole pour initier leur stratégie de défense.
Bien sûr, pour se dédouaner le plus vite possible.
Ouais.
Tout à fait.
Et d'ailleurs, si on regarde bien dans certains communiqués, il y a parfois... En tout cas, il y a un sous-entendu que ça pourrait être de la faute de Nemesis qui aurait provoqué en venant à cette réunion. Donc c'est vrai qu'il y a des réactions du côté de la gauche et de l'extrême gauche, mais parfois les réactions sont plus honteuses et certains feraient mieux de ne pas réagir si c'est pour raconter des choses pareilles.
Pierre Galland, sur la question.
C'est à la fois, il y a plusieurs choses. En effet, les faits sont d'une gravité absolue et un nouveau pas a été franchi. Malheureusement, des lynchages de militants, c'est pas le premier. Et malheureusement, je crains que ce ne soit pas le dernier. Mais il est vrai qu'on n'avait jamais passé ce stade-là d'envoyer quelqu'un en état de mort cérébrale. Donc de ce point de vue-là, c'est particulièrement choquant et d'une gravité absolue. Et on parle quand même en plus de quelque chose. Ils étaient, selon les dires des témoins, ils étaient armés avec des poings américains, des gants coquets. Il me semble qu'on a parlé de matraques télescopiques également. Ils étaient une trentaine. Enfin, il y a une vraie dimension de préméditation dans la chose.
Ouais, je crains en l'argent que ce soit pire que ça, puisque la dernière dépêche de l'AFP mentionne des coups de couteau.
Alors, les témoins, en tout cas, ne mentionnent pas.
D'accord.
Ces faits-là.
La presse pourtant.
Donc il y a un flou sur la question. Il est possible que ça ait échappé aux témoins. L'AFP en effet a sorti une dépêche dans laquelle il mentionne des coups de couteau. Là-dessus, il faut quand même rester prudent. Ça a pas été. Enfin, dans le communiqué, en tout cas, de l'avocat, il en parle pas. Et les proches de la victime n'en ont pas parlé non plus. Mais on parle quand même, malgré tout, même s'il n'y a pas de couteau, le poing américain est une arme de catégorie D également.
Ouais, bien sûr.
Ça reste quand même, on ne va pas à une conférence a priori avec des poings américains et des gants coquets si on n'est pas là pour en découdre.
Oui, c'est suffisant pour affirmer qu'il y a ces préméditations.
Il y a une vraie notion de préméditation derrière tout ça, et donc c'est particulièrement choquant.
Et donc ce serait qualifié en assassinat, j'imagine, s'il y a préméditation.
On peut passer sur une tentative d'assassinat en bande organisée, et donc en effet.
Qui serait aggravé par ailleurs par les motifs politiques, sans doute, peut-être.
Et qui pourrait. Alors, l'assassinat n'a pas de circonstances aggravantes sur des motifs politiques. En revanche, ça peut montrer qu'il y a évidemment
ça peut être retenu dans les discussions.
Et participer à la démonstration du fait qu'il y avait quelque chose qui était prémédité et que c'était pas juste une agression gratuite qui a mal tourné, mais que c'était vraiment une agression qui avait pour but et pour objectif derrière donner la mort. Et donc ça peut en effet participer à la qualification de la tentative d'assassinat.
Ok, donc dans quelques instants, donc nous recevrons Édouard Bina, donc directeur de la cocarde étudiante et ancien élève de Sciences Po Lyon, qui nous apportera son éclairage local sur la question. En attendant, c'est vrai, vous en avez parlé, Pierre, qu'il faut rappeler qu'il demeure une situation de flou sur la situation, notamment autour de l'état de santé de Quentin, hein, qui a été plusieurs fois annoncé mort dans la journée par différents, parfois des militants, parfois des médias alternatifs. Il est 21h40 ce soir. La dernière communication officielle qu'on a eue, c'est le communiqué de presse de l'avocat de la famille de Quentin, qui décrivait un jeune homme qui se battait toujours, je crois, donc il parlait d'une situation désespérée. Donc voilà, Pour l'instant, à notre connaissance, Quentin est toujours en vie. Voilà, il faut aussi rester prudent de ce point de vue-là. On a vu quelques vidéos de, semble-t-il d'ailleurs pas de sa propre agression à lui, mais de, du début des chauffourées entre les Antifa et le service d'ordre de Némésis. On n'a pas vu des images de sa propre agression.
Bah, non, si j'ai bien compris, lui aurait été agressé dans une rue adjacente.
Exactement.
Voilà, après.
Et voilà,
ça a été
les Antifa.
Après, sur le retour, et pendant en fait, qu'il s'éloignait.
Il se serait pris à lui une fois qu'il était seul.
Tout à fait.
Et il aurait agressé sans doute à plusieurs. Et lui a peut-être accompagné d'un ami, mais pas plus.
Alors dans les premiers éléments, oui, en effet, qui sont remontés, c'est que c'était en effet sur le départ. Et donc c'est pour ça qu'il y a très peu d'images pour l'instant et qu'il faut être très prudent sur à la fois le récit comme sur l'état de santé, parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations plus autres qu'en effet le dernier communiqué. Mais en effet, a priori, d'après le récit du collectif Némésis, qui est plutôt corroboré par les quelques éléments de l'heure de la prise en charge, le lieu de la prise en charge par les pompiers, où il se semblerait que c'était en effet sur leur tour quand ils s'éloignaient. Alors, il n'était pas forcément tout seul, mais en tout cas, ils étaient sur le départ. Et c'est à ce moment-là qu'ils auraient été attaqués et suivis par une trentaine d'antifa et qu'il aurait été d'abord mis au sol par une balayette et lynché ensuite, probablement une fois qu'il était isolé, avant de tomber dans un état tout à fait catastrophique
et d'être emmené à l'hôpital. Nous accueillons par téléphone Edouard Bina, président de la cocarde étudiante. Ancien élève de Sciences Po Lyon. Bonsoir Edouard.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir. Bon d'abord, la première question, celle que j'ai posée à mes chroniqueurs autour de la table. Comment est-ce que vous avez appris cette tragique information? Quelle a été votre première impression?
Eh bien, j'ai appris l'information hier soir, peu de temps après l'action, où des amis lyonnais et des gens de Sciences Po Lyon m'ont contacté. Et certains amis qui étaient en cours m'ont dit « Ah oui, il y a une action Némésis devant Sciences Po ». Au même moment, je reçois des messages d'amis plutôt issus du milieu politique lyonnais qui me disent qu'il y aurait eu une bagarre, qu'un membre proche de Némésis aurait été gravement blessé et serait actuellement hospitalisé. Donc je me dis « Ah mince, c'est assez grave, mais je n'y pense pas plus que ça sur le moment, et je commence à recevoir au fur et à mesure les informations qui me laissent entendre qu'effectivement c'est plus grave que ce qu'on pensait et qu'il est en urgence vitale.
C'est dès hier soir.
Oui, dès hier soir.
D'accord.
Et là, je commence à m'inquiéter un peu plus, je commence à demander des nouvelles, et effectivement, les gens que je m'attends, en fait, parce que j'ai déjà eu entendu plusieurs fois des récits un peu extrapolés. Et là, mes amis et mes connaissances me confirment qu'effectivement, il y a eu quelqu'un qui a été emmené à l'hôpital, qui serait effectivement en urgence vitale, et qu'en plus de ça, il avait été identifié sur une vidéo, étant au sol à ne plus bouger.
D'accord.
Et donc, plus je me renseigne, plus on me dit qu'effectivement, il est en urgence vitale, que la famille est en train de se déplacer et qu'il a des chances d'y rester. Et là... Là, je commence à être dévasté parce que je me rends compte que c'est effectivement sans doute beaucoup plus grave qu'une simple rixe, qu'une action Némésis qui aurait mal tourné ou quoi que ce soit.
Oui, il faut dire qu'effectivement, les militants de droite français et particulièrement les militants lyonnais sont habitués à subir des échauffourées, des agressions de la part de la gauche et de l'extrême gauche, mais qu'on a sans doute atteint hier soir on a sans doute passé un cap dans la violence. Est-ce que, Edouard Bina, ce passage de cap vous surprend? Est-ce qu'il fallait s'y attendre, au contraire?
Alors, en fait, dire qu'il me surprend serait mentir, mais... En fait, au fond de nous, je pense qu'on savait tous que ça finirait par arriver un jour, mais on espérait que ça n'arrive pas. Parce que le contexte politique lyonnais est extrêmement tendu. La jeune garde à Lyon est connue pour être très violente, pour s'en prendre aux gens. Et il y a à peine quelques mois, c'est un militant lyonnais qui a été lynché à 8 contre 1. Et sur la vidéo, on voit des gens lui sauter à pieds joints sur le crâne et on voit son crâne se plier. Et cette vidéo m'est restée parce que je me suis dit, je connaissais cet homme, j'ai discuté avec lui et je m'attendais à ce qu'il soit mort. Et en fait, il me dit qu'il s'en est sorti et qu'il n'a pas eu trop de dégâts. Et en fait, on tient... Et on a tenu jusqu'aujourd'hui sans mort par miracle. J'ose dire le terme, puisque En fait, la jeune garde à Lyon agit en roue libre depuis des années, s'en prend à n'importe qui. J'ai eu l'occasion de faire la rencontre fortuite avec eux à de multiples reprises. Mmh. Et en fait, ils vont menacer de mort les gens, ils vont s'en prendre à eux, ils vont lyncher des gens, ils vont les laisser pour morts, ils n'en ont rien à faire. Et l'aboutissement de tout ceci, c'est qu'aujourd'hui, nous avons réellement un mort par l'inaction du gouvernement, par l'inaction des juges, par l'inaction de la police.
Mmh. Edouard Abinal, on l'a dit tout à l'heure, vous étiez par ailleurs ancien élève ou toujours élève de Sciences Po Lyon, je ne sais pas.
J'attends d'être diplômé, j'ai fini mes études en avril.
D'accord, donc toujours officiellement élève de Sciences Po Lyon, donc c'est une institution que vous connaissez bien.
Oui, j'ai fait mes 5 années d'études là-bas, donc le mur devant lequel il a été lynché, j'y passais tous les jours.
Oui.
Et cette école est connue pour être quand même assez à gauche. Et par le fait que moi, président de la cocarde, j'y étais étudiant, il y a eu beaucoup de tensions. Plusieurs fois, des individus cagoulés et armés de matraques télescopiques sont rentrés dans l'établissement pour nous menacer. J'ai des gens qui m'ont menacé de mort. J'ai un ami à moi, non militant, qui a été menacé de mort.
Alors, Parce que c'était votre ami?
De quoi?
Parce que c'était votre ami?
Non, parce qu'il avait un drapeau français sur son sac. Jacques Ellie, qui a été dans la RICS et qui a participé au lynchage, est venu le voir, l'a menacé de mort parce qu'il était, je cite, un faf. Il y a eu une plainte nommant expressément Jacques Ellie avec des enregistrements, des témoignages d'autres élèves, sachant que Jacques Ellie était étudiant à Sciences Po Lyon à ce moment-là. Il n'a été condamné ni par l'administration, ni par la justice, alors qu'il est impliqué dans plusieurs agressions. Et c'est ça qu'il faut marteler. C'est que Jacques Ellie, l'assistant de Raphaël Arnaud, cela fait des années qu'il agresse impunément des gens à Lyon, des années qu'il menace impunément des gens à Lyon, dans sa propre école. C'est-à-dire qu'il va, dans son école, menacer des élèves, et menacer de les tuer au couteau, et il n'y a rien qui a été fait, que ce soit par l'administration de l'école, par la justice ou par la police. Et c'est à cause de ça. Sciences Po Lyon, il y a souvent eu des manifestations d'extrême gauche qui étaient organisées devant l'enceinte de l'établissement, des manifestations pro-Palestine, dont une d'ailleurs avec Rima Hassan déjà par le passé, et ensuite les manifestants d'extrême gauche rentraient dans l'université et faisaient la chasse aux militants de droite pour essayer de trouver les quelques personnes qui étaient connues pour être militants de droite, dont moi. Et nous avions déjà alerté plusieurs fois la présidence de l'école sur le risque qu'il y ait un jour un étudiant qui soit lynché, passé à tabac, par le fait qu'il y avait des milices d'extrême gauche armées qui tournaient dans l'établissement.
Et la direction n'a jamais agi?
La direction nous a à chaque fois dit plus ou moins de nous débrouiller, et la seule chose qu'ils ont pu faire, c'était me dispenser de cours les jours de manifestation pour que je ne me fasse pas agresser.
Oui, d'accord. Vous parliez à l'instant de Jacques Ellie Favreau, hein, donc il faut redire à nos auditeurs que Jacques Ellie Favreau, donc on peut parler de leader lyonnais de la jeune garde ou il a ce rôle-là?
C'est effectivement un des leaders lyonnais de la jeune garde, présent dans la majorité des agressions, dans plusieurs lynchages de personnes, notamment d'après les plaintes. Donc là, uniquement d'après les plaintes, donc des informations que la justice française a, il était présent au lynchage d'un individu qui était reconnu comme de droite, qui revenait à la gare avec sa femme, qui s'est fait lyncher devant sa femme. Il était présent au lynchage d'un étudiant qui sortait de cours à Lyon 3. Il était présent dans plusieurs lynchages et plusieurs affrontements. Il a menacé à nouveau de mort des étudiants dans l'enceinte de l'établissement. Et à chaque fois, rien, aucune condamnation, même pas une mesure, un conseil de discipline par l'école. Alors que nous avons eu des conseils de discipline en tant qu'élèves de droite pour beaucoup moins que ça.
Et il faut rappeler que cet homme ultra-violent que vous décrivez et se trouve être aujourd'hui l'assistant parlementaire de Raphaël Arnaud. Donc il est payé par vos impôts, littéralement, par les impôts des Français, malgré ce palmarès effrayant. Emmanuel de Bonnune, je crois que vous aviez une question à poser à notre invité.
Oui, connaissant mal l'écosystème politique et la place de la jeune garde auprès des institutions d'extrême gauche, comment est-ce qu'on peut... J'ai vu que Rima Hassan s'était défendue en disant qu'elle n'avait pas été accompagnée par la jeune garde lors de ce déplacement, mais quels sont les liens, au-delà de la personnalité de Jacques Ellie, entre la jeune garde et LFI? Est-ce que c'est un mouvement satellite qui intervient que... dans des événements vraiment dans la rue pour attaquer d'autres mouvements de droite, ou est-ce que vraiment c'est incorporé au parti et prend place dans le dispositif même de sécurité de LFI?
Alors, je vais vous parler à nouveau uniquement de ce que j'ai eu l'occasion de voir et de savoir, mais lors de meetings de la France Insoumise à Lyon, une amie qui était dans une association de débat et qui venait pour poser des questions à Raphaël Arnaud, amie encartée aux Républicains, a été menacée par Raphaël Arnaud, à l'époque qui n'était pas député, et qui faisait le service d'ordre de Jean-Luc Mélenchon, avec des membres de la Jeune Garde, en lui disant de partir parce qu'elle c'était une faf. Parce qu'elle avait été vue en compagnie de gens de l'UNI, syndicat lié aux Républicains. Mmh. On a identifié plusieurs membres de la Jeune Garde qui faisaient le service d'ordre de la France Insoumise. Rima Hassan, il faut rappeler que ce n'est pas la première fois. Il y a déjà des photos de Raphaël Arnaud et de membres de la Jeune Garde armés de casques de moto qui avaient été publiées sur l'Instagram de la Jeune Garde et de Raphaël Arnaud, où il faisait son service d'ordre lors de conférences. Il faut rappeler aussi cette conférence de Rima Hassan à l'Université Dauphine, où des membres d'organisations juives avaient tenté de manifester devant et avaient été lynchés à nouveau par la Jeune Garde, ceux qui avaient participé à leur dissolution.
Oui, c'est le canard enchaîné qui avait révélé cette affaire à l'époque.
Oui.
Et dissolution qui n'est pas encore effective, oui, il me semble.
Alors, dissolution qui a été prononcée, je crois, en conseil des ministres par Bruno Retailleau l'année dernière, et qui a été qui est contestée actuellement devant la justice par la Jeune Garde.
Devant le Conseil d'État.
Devant le Conseil d'État. Et donc, je crois qu'il y avait une audience qui était, hasard du calendrier, prévue aujourd'hui et qui a été repoussée, me semble-t-il.
Oui, et repoussée apparemment sine die. Donc, pas de d'échéance à venir.
Donc, pour l'instant, la Jeune Garde n'est toujours pas officiellement dissoute.
Non.
Bon.
Et pour moi, ce qui est très important, c'est de rappeler que ce n'est pas un accident. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça. Il y a tous les signes. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Rima Hassan est venue en conférence dans les universités, la Jeune Garde a fait son service d'ordre. À chaque fois qu'il y a eu une contestation ou une manifestation devant, la Jeune Garde a été violente et a lynché des gens. La Jeune Garde agresse systématiquement les étudiants de droite. La Jeune Garde s'en prend systématiquement aux personnalités politiques vues comme de droite. C'est à chaque fois, la Jeune Garde est capable d'une violence. Ils l'ont déjà publié sur leurs vidéos, où ils revendiquent lyncher des personnes, leur sauter dessus à pieds joints, ils revendiquent essayer de, je cite, tuer des faf. Et à chaque fois, il n'y a rien eu. C'est ça qu'il faut, insister. C'est-à-dire, l'extrême gauche tue, la gauche cautionne, les institutions permettent. Et c'est le mot d'ordre.
Emmanuel Picot, un avis sur la question?
Non mais c'est intéressant de faire la transition avec ce qui vient d'être dit, parce que effectivement, Raphaël Arnaud, on le dit pas assez, et je sais que les auditeurs de Radio Courtoisie l'ont bien en tête, mais il faut quand même se rappeler les mots de Raphaël Arnaud, qui disait, je cite, « Vous ne verrez jamais un militant de la Jeune Garde impliqué dans des affaires de violence. » cette phrase, aujourd'hui, est quand même problématique. Bon, alors, on découvre pas que la Jeune Garde est violente, mais il faut quand même redire que donc Raphaël Arnaud, qui aujourd'hui est député, député de la République française, payé par nos impôts, qui est censé travailler pour les Français, est quand même à la tête d'effectivement une association qui, vous l'avez rappelé, n'a pas été encore officiellement dissoute. Il y a quand même des questions à se poser sur ce qu'on pense de ce député et de ses actes à la tête de cette association. On disait tout à l'heure que certains militants et certains députés, pardon, de la France Insoumise et de la gauche avaient tweeté, en tout cas avaient réagi. Ça n'est pas le cas de Raphaël Arnaud, je viens de revérifier à l'instant. Il n'a toujours pas ni tweeté ni communiqué sur cet événement, ce qui pose quand même une question. Si c'est avéré que c'est effectivement son collaborateur parlementaire qui, en tout cas, est au moins impliqué dans cette affaire, ça interroge sur son avenir à lui, déjà en tant qu'assistant parlementaire, et sur les liens que donc Raphaël Arnaud peut entretenir, non pas forcément que avec des militants de la Jeune Garde, mais donc avec des présumés assassins.
Ouais.
Voilà, ça pose quand même des questions sur ce député de la République française.
Edouard Bina, depuis l'élection à l'Assemblée nationale de Raphaël Arnaud, vous avez senti la Jeune Garde se changer de comportement, se sentir plus plus autorisés à la violence. Est-ce qu'il y a une radicalisation de ce point de vue-là?
Ah mais totalement. Pendant un moment, à Lyon, ils avaient un fonctionnement où ils partaient par petits groupes de 2 ou 3. Ah, ils faisaient plusieurs petits groupes. Dès qu'ils repéraient une personne de droite, ils avaient identifié, parce qu'ils ont des carnets avec les noms, prénoms, adresses, ce genre de droite. Ils lui tombaient dessus à 5 ou 6. Ils le lynchaient complètement au sol, le laissaient pour mort et repartaient. Mmh. C'était le comportement qu'ils avaient. Et ils faisaient ça quasiment tous les jours.
Comme s'ils se sentaient protégés par leur ami député, quoi.
C'est ça. Il faut rappeler que Raphaël Arnaud continuait de prendre des photos et des vidéos avec les gens de la Jeune Garde. Que lors de son déplacement en tant que député à Nîmes, il avait pris une photo avec les Furious Monkeys, qui est un groupe connu pour leur violence, ainsi qu'avec les membres de la Jeune Garde, et que sur une story de la Jeune Garde, on voyait Raphaël Arnaud danser, alors que la Jeune Garde chantait quelque chose, il me semble, comme « Cagoulé, ganté, les faf, on va tous les péter ».
Ouais, d'accord. Charmant.
Il y a toujours eu l'incitation à la violence dans la Jeune Garde, et ils l'ont toujours légitimé. On m'a déjà menacé de mort plusieurs fois à la sortie des cours par des gens de la Jeune Garde. Et la seule chose qui les empêchait de passer à l'action, c'était de savoir que j'étais soit en capacité de me défendre, soit qu'il y avait des témoins.
Ouais.
Ça a toujours été le comportement de la Jeune Garde. La Jeune Garde cherche la violence, la Jeune Garde désire la violence. Et là, ça a été la bagarre qui leur a permis de... Ils se sont acharnés. Ils ont balayé quelqu'un, l'ont amené au sol, se sont acharnés sur lui, de la même manière qu'ils se sont acharnés sur d'autres gens. Et cette fois-ci, la personne est morte.
Et c'est quand même extraordinaire qu'on puisse dire, qu'on puisse prononcer des menaces de mort et que nous, on soit choqués parce qu'on est sur une radio avec des auditeurs qui savent un peu réfléchir, mais c'est quand même extraordinaire de se dire que on peut menacer de mort quelqu'un aujourd'hui. À Lyon, c'est manifestement fréquent. Mais évidemment c'est pareil dans toute la France, mais c'est quand même dingue de se dire que ces menaces sont récurrentes, quotidiennes, et que les Français sont obligés de vivre avec ça. Je trouve que...
On s'est habitué, à ce genre de choses. Je sais que l'Observatoire des violences politiques avait fait il y a quelques temps une espèce de compilation de ce qu'on pouvait reprocher de façon prouvée à la Jeune Garde. On arrive... Donc en 5 ans d'existence, à plus d'une cinquantaine de faits, dont je crois Edouard Bina, plus d'une trentaine rien qu'à Lyon. Donc on est vraiment sur une épidémie lyonnaise assez importante.
Ah oui, mais Lyon c'est le cœur de la Jeune Garde.
C'est là que la Jeune Garde a été fondée, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Ouais. Ça a toujours été leur fonctionnement. Leur fonctionnement, c'était de partir du principe qu'ils devaient lyncher les gens, parce que c'était ce qui les empêcherait de continuer à faire de la politique. Et à Sciences Po Lyon, un de mes amis était d'extrême gauche, il connaissait assez bien les gens proches de la France Insoumise et de la Jeune Garde, et est venu me dire, parce que je me faisais attendre régulièrement à la sortie des cours et je me faisais menacer par des gens armés dans l'ensemble de l'établissement, il est venu me dire que leur stratégie c'était de me pousser à bout pour que j'arrête la politique ou qu'un jour ils puissent, je cite, m'attraper en dehors des caméras. Et que à ce jour-là, je me ferai lyncher. Et c'est le fait de la pression de savoir que chaque jour où on va en cours, chaque jour où on sort de cours, on peut être passé à tabac, on peut être lynché, et peut-être que ce jour-là, ce sera le mauvais jour et qu'on va y rester. C'est ça, c'est cette pression constante qu'ils veulent mettre sur les militants de droite pour qu'ils finissent par arrêter de militer. Et il faut rappeler que Raphaël Arnaud a menacé de mettre une balle dans la tête d'Alice Cordier, a menacé de s'en prendre physiquement à Mila, il a quand même été élu député. C'est ça le souci.
C'est cautionner
la violence.
C'est ce que je voulais dire, c'est que
dans le cas de
Raphaël Arnaud, on n'est pas sur un député LFI sur lequel on aurait découvert après coup des liens avec la Jeune Garde. On
c'est est pas
sur quelqu'un qui
a été,
voilà,
qui
c'est
a
pas
été
une brebis galeuse. On est sur quelqu'un qui a été choisi par Jean-Luc Mélenchon précisément parce qu'il était déjà le porte-parole de la Jeune Garde et qu'il s'était fait à ce titre-là une réputation. Assez importante dans les rangs de l'extrême gauche. Donc c'est vraiment, en investissant Raphaël Arnaud, candidat de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon a littéralement porté sur les fonds baptismaux la Jeune Garde.
Oui.
Pierre Galland.
Et c'est ça le...
Mais il y a, au-delà même dans l'élection là, de Raphaël Arnaud, au-delà même de la caution des électeurs de gauche, même les électeurs du centre. Il faut quand même rappeler qu'aux élections législatives de 2024, l'ex-premier ministre Gabriel Attal n'avait absolument pas interrogé justement sur ce cas-là de Raphaël Arnaud, n'avait absolument pas pris position contre lui et n'avait pas du tout appelé les électeurs du centre, puisque le RN est arrivé en tête au premier tour suivi de Raphaël Arnaud. Et donc la candidate Ensemble s'était retirée en sachant très bien ce qu'elle faisait et il n'y avait pas pu avoir de comme on peut l'entendre parfois, les fronts républicains, où là il aurait peut-être été nécessaire que les électeurs du centre se disent qu'il y avait un vrai danger pour le coup, littéralement, pour la démocratie, en laissant élire ou en élisant directement Raphaël Arnaud à l'Assemblée nationale.
Édouard Bina, une dernière question avant de vous laisser. Donc vous êtes aujourd'hui le directeur de la cocarde étudiante, dont les actions se déroulent sur tout le territoire national, pas seulement à Lyon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant en tant que militant politique quand on a subi ça, quand on a connu ça? Quels sont les moyens d'action? Est-ce qu'il y a encore un moyen de désarmer cette extrême gauche-là?
Mais bien sûr. Ce qu'il faut, c'est agir systématiquement contre eux. Il faut afficher chaque fois qu'ils sont violents, chaque fois qu'ils se permettent le dérapage de trop, il faut marteler. Et il ne faut pas marteler auprès d'eux, il ne faut pas arriver et dire « Ah oui, vous êtes violents », parce qu'ils l'admettent, parce qu'ils en sont fiers. Il faut aller voir les Républicains, il faut aller voir le gouvernement, il faut leur dire « Vous venez parler de violence d'extrême droite, et pourtant, vous cautionnez l'existence de la Jeune Garde. » Combien d'organisations soi-disant d'extrême droite dissoutes avant que le gouvernement décide de dissoudre la Jeune Garde? Combien de groupuscules antifa dissous? Il y en a des dizaines d'autres. On peut parler de l'ORAD à Toulouse, on peut parler de Nantes révoltée, de la Galle. Les groupuscules antifa sont laissés totalement libres et c'est pour ça qu'ils se permettent d'être violents. Il faut systématiquement les afficher les coupables, les punir, forcer le gouvernement, forcer la justice à prendre ces cas et à les punir. Et c'est de cette manière, il faut réclamer la dissolution des groupuscules antifascistes, il faut afficher les responsables et il faut afficher ceux qui le cautionnent, il faut afficher les partis politiques qui le tolèrent. L'ensemble des partis politiques de gauche se sont opposés à la dissolution de la Jeune Garde. L'ensemble des partis politiques de gauche ont du sang sur les mains.
Et j'imagine, Édouard Bina, que ce que vous dites là, ce fera partie des mots d'ordre d'une manifestation que, je crois, vous co-organisez dimanche à Paris, c'est ça?
Oui, c'est ça. Là, il y a une manifestation ce dimanche 16h à Paris qui a pour but de montrer que nous ne nous laisserons pas tuer, nous ne laisserons pas les milices d'extrême gauche imposer leurs lois et nous réclamons aujourd'hui justice. Pour Quentin, nous réclamons justice pour l'ensemble des autres personnes qui ont été agressées en toute impunité par l'extrême gauche. Et nous réclamons enfin que le gouvernement se décide d'agir et de prendre ce problème à bras-le-corps.
D'accord. Pierre Galland, je crois, avait une dernière question et ensuite on vous laisse, Edouard Bina.
Exactement. Sur les marches à suivre, entre guillemets, pour sortir de ça, je vous entends dire, oui, il faut afficher, il faut montrer, il faut porter plainte, il faut dissoudre, etc. On le voit bien, là la Jeune Garde a été dissoute, bon ça a été contesté mais la décision a quand même été prise, on le sait depuis des années et ils l'affichent, ils le revendiquent. Raphaël Arnaud, on l'a dit, l'affiche publiquement et est fier de ses actions violentes et c'est pas du tout une honte pour eux de le dire, etc. etc. Et donc est-ce que, on le voit bien, ces choses-là elles sont déjà connues et pour autant ça continue, donc est-ce que c'est suffisant de simplement afficher et espérer que les gens se réveillent?
Alors, ce n'est pas juste une question d'afficher auprès de gens de droite. Il faut aller voir le centre mou, aller voir les LR, aller les voir et leur dire « Est-ce que vous cautionnez ça ?» Et en plus de ça, j'oubliais effectivement une partie, c'est il faut se mettre en capacité de se défendre. Parce que nous, à la cocarde étudiante, au début, les groupuscules antifascistes nous attaquaient systématiquement lorsque nous venions dans les universités. Et là, lors des dernières élections étudiantes, nous avons eu plus d'une quinzaine de tentatives d'agression en moins de 4 jours. Et à chaque fois, nous nous sommes défendus. Et c'est ça. C'est lorsqu'ils voient qu'il y a des gens qui sont capables de se défendre et qu'en fait, ils prennent la double peine. C'est ce qui est arrivé à Nantes. Ils ont tenté d'attaquer notre hommage à Lola. Et non seulement ils ont perdu, et se sont retrouvés mis en difficulté sur le terrain parce que nous étions capables de nous défendre. En plus, ils ont été affichés dans la presse et ensuite la justice s'en est pris à eux. Et lorsqu'ils prennent la triple peine, ils reculent. C'est ça que nous devons faire. Nous devons être en capacité de nous défendre physiquement, de repousser leurs attaques et en même temps de les afficher. Et lorsqu'ils n'ont plus rien à gagner, ils arrêtent.
Merci beaucoup, Edouard Bina. Donc, je le rappelle, vous êtes directeur de la Cocarde étudiante et vous étiez aussi, vous êtes toujours pour l'instant étudiant à Sciences Po Lyon. Merci pour vos éclairages sur la question. Et donc, on rappelle que vous organisez dimanche à 16h à Paris, au Panthéon, c'est ça, hein?
Oui, au Panthéon.
Au Panthéon, une manifestation, donc justice pour Quentin. Donc, nous appelons évidemment tous les auditeurs de Radio Courtoisie à s'y rendre le plus nombreux possible. Merci, Edouard.
Merci à vous.
Chers auditeurs, nous allons enchaîner avec le traditionnel interlude musical que les auditeurs de Prolongation connaissent bien et nous vous retrouvons dans quelques instants.
Fait gris sur la vie, il manque un ami. La dame blanche l'attendait. Fait lourd sur la nuit, quand on est saisi par l'avalanche des regrets. On essaie d'inventer encore un peu de sa présence. On essaie d'accepter toutes les raisons de son absence. On dit qu'il a rejoint les oies sauvages qui sont là-haut dans les nuages, rassemblées sur nos destinées. Regarde, il nous a laissé ses bagages. Il est parti pendant l'orage. Personne ne l'a vu s'éloigner. À chacun sa vie, on l'a souvent dit, sans jamais vraiment le penser. Il pleut de l'ennui sur les vieux treillis. Souvenir du temps passé. Les bardes qui ne chassa résonnent encore de ses rengaines. Le ciel de Jamena est un jardin dans son domaine. Et quand on voit passer les oies sauvages en escadrille dans les nuages, on a parfois de drôles d'idées. Écoute, dans le sifflement des mirages, on croirait qu'elle lance un message, sûr que c'est lui qui l'a dicté. Apportez-nous des verres, on va trinquer à nos galères. Allumer les lumières à la mémoire de notre frère. Un jour, on rejoindra les oies sauvages et ceux qui sont morts avant l'âge, qui nous attendent à leur côté. Ici, on est simplement de passage, en transit pour le long voyage, celui dont on ne revient jamais. Un jour, on rejoindra les oies sauvages et ceux qui sont morts avant l'âge, qui nous attendent à leur côté. Ici, on est simplement de passage. «
Chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, bonsoir et bienvenue à nouveau sur les antennes de Radio Courtoisie en prolongation. Je suis toujours accompagné de Emmanuel de Bonugne. Vous allez toujours bien, Emmanuel ?
Oui, très bien, merci.
Je suis également avec Emmanuel Picot et Pierre Galland. Pour rappel, nous avons parlé tout à l'heure avec Edouard Bina de l'agression de Quentin, hein, ce jeune militant nationaliste à Lyon. C'est l'occasion aussi pour nous de redire notre soutien à ses proches, à sa famille, à ses camarades. On sait que le Quentin est toujours entre la vie et la mort. Donc, chers auditeurs, bien sûr, n'oubliez pas de prier pour lui, si vous le pouvez, et de prier pour sa famille. Pierre, je crois que vous vouliez nous parler d'un autre événement qui a eu lieu aujourd'hui, qui a peut-être même lieu encore en ce moment, d'une autre démonstration de violence de la part de l'extrême gauche.
Exactement, pour prendre un peu de hauteur par rapport à cet événement qui évidemment reste tragique et particulièrement choquant et violent, on voit que ça n'empêche pas et que visiblement ça n'a pas inquiété plus que ça les antifas de voir qu'ils étaient peut-être allés un peu trop loin sur ce coup-là, puisque ce soir donc il y avait un meeting dans le cadre des élections municipales, les 15 et 22 mars prochain, à Grenoble, où le candidat RN donc tenait un meeting ce soir et qui a été encore une fois perturbé par les antifa. Ça a donné lieu à des gros heurts avec la police qui a dû faire usage de gaz lacrymogène, des poubelles ont été brûlées, enfin bref, la classique de l'émeute urbaine.
Ouais.
C'est vrai qu'on meeting a pu se tenir et se terminer
sous protection policière.
Sous protection policière, mais donc voilà, on voit que ça ne met pas d'un coup d'arrêt de oups, on est allé un peu loin.
Dans une autre ville écologiste.
Dans une autre ville écologiste.
Mais on aurait pu penser que les antifeurs aient la décence de se faire un peu discret. On s'est raté. Emmanuel, ce qui se passe, donc ce que vient de raconter Pierre, c'est un exemple parmi des centaines, des milliers d'autres de violences perpétrées par la gauche, par l'extrême gauche. Ce qui me paraît intéressant là-dedans, c'est de rappeler que c'est pas simplement un excès parfois atteint par des tempéraments un peu plus vigoureux que les autres, un dérapage, mais au contraire que la violence fait partie de l'ADN de la gauche depuis toute son histoire en fait. Je crois que c'est quelque chose qui est peu dit, qui est peu compris et à propos duquel vous voulez me dire un mot.
Je pense effectivement qu'on n'en parle pas assez et qu'on le traite trop de manière anecdotique. Et qu'on, sans vouloir être pessimiste, et qu'on croit d'ailleurs résorber ce phénomène trop facilement. Et en réalité, ça se comprend aussi par le fait que dans l'histoire récente des partis politiques, c'est relativement inédit qu'un parti aussi puissant, qui est l'une des principales forces d'opposition, et dont le candidat est bien placé dans la course à l'Élysée, mine de rien, même s'il n'a jamais atteint le second tour, a fait de cette violence un vrai marqueur politique. Et dans l'histoire de la France insoumise, déjà dans l'histoire des partis de gauche, ça n'a pas toujours été le cas, dans l'histoire de la France insoumise, ça n'a pas toujours été le cas, mais de fait, les dernières élections législatives ont marqué un tournant, et on l'a vu évidemment avec l'élection de Raphaël Arnaud, mais même avec la place de Delogu dans l'écosystème, dans la structure du parti, sa place de tête de liste à Marseille. Et on voit qu'il y a une vraie... En fait, il y a une espèce de retour historique de Jean-Luc Mélenchon à cet ADN qui, je pense, avait été abandonné dès les années 80 au moins par la gauche qui s'est convertie au libéralisme, qui s'est convertie évidemment à l'économie de marché, mais... et qui a aussi, dans sa stratégie politique, abandonné cette lutte, a abandonné peut-être le combat de la rue.
Oui, c'est vrai que depuis les derniers coups d'éclat maoïstes qui doivent dater du milieu des années 70, on n'avait plus trop vu ce genre de choses.
Je pense pas. Et puis, il n'y avait aucun parti qui incarnait vraiment ça. Et aujourd'hui, de la même manière que la France insoumise... C'est arroger ce nouveau peuple venu d'un autre continent, eh bien ils se sont aussi arrogés cet autre élément constitutif de la révolution, à savoir la violence. Et on trouve avec ces deux ingrédients évidemment un écho assez frappant avec Robespierre et la terreur, puisque dans l'ADN révolutionnaire de la terreur, il y a cette idée de purger les Français de créer un nouveau peuple avec toutes ses dimensions spirituelles, ethniques, culturelles, politiques évidemment, et puis une violence qui est érigée évidemment comme méthode absolue de la politique.
Mmh. Est-ce qu'il faut voir là une contradiction dans les termes, parce qu'on la gauche se pose souvent comme le défenseur de la bonne morale, de la vertu, de la tolérance, de la liberté, ce genre de choses. En fait, quand on prend de la hauteur, on se rend compte que, comme vous le disiez, depuis la Révolution et la Terreur, elle a toujours, su et voulu faire usage de la plus forte violence contre la droite, hein, très spécifiquement, pour faire avancer son projet de société. Et on a l'impression que, alors c'est vrai que c'est nécessairement lié à l'histoire récente, mais on a l'impression que dans l'imaginaire collectif, surtout j'allais dire dans l'imaginaire médiatique, c'est la droite qui a cette image de violence, d'excès, de cruauté, alors qu'en réalité, si on pense donc évidemment à la Terreur, mais à tous les épisodes révolutionnaires du 19e siècle, à la Commune évidemment,
aux attentats, au
bolchevisme, à la révolution bolchevique, c'est quand même des épisodes systématiquement d'une très grande violence, sous parfois même de la violence de masse, parfois des millions de morts. Et on a l'impression que, alors c'est vrai, peut-être que c'est ce que vous disiez, peut-être que la conversion au libéralisme de l'état-major socialiste dans les années 80 a fait oublier ça, mais finalement il y a pas cette contradiction, il y a un ADN qui est là et qui sans doute à une époque où beaucoup de choses vont se décider politiquement, où beaucoup d'illusions vont se dissiper, qui revient en force chez cette gauche.
Bah, je pense que y a la contradiction entre la violence et la vertu n'est qu'apparente, dans la mesure où...
Oui, en fait, la vertu leur sert à justifier la violence, quelque part.
Oui, mais aussi, comment dire... J'allais dire que je les croyais sincères, mais de fait, la violence s'inscrit dans une démarche assez profonde. Je pense qu'on peut dire qu'ils incarnent un autre système que le nôtre. Ils incarnent... notre divergence avec Raphaël Arnaud, c'est pas sur le pouvoir d'achat, c'est pas sur la politique migratoire, c'est pas sur l'économie. C'est vraiment, ils incarnent un système de valeurs, une conception anthropologique qui est radicalement différente, et donc ils s'arrogent un droit et même un devoir moral, de la manière que nous, parce que nous croyons à certains idéaux, nous sommes prêts à mourir pour ces idéaux. Et je pense que c'est en cela que ce sont parfaitement nos ennemis. Et que la Macronie, le centrisme et toutes ces multiples facettes, plus ou moins à droite ou à gauche, ne sont pas dans l'histoire et ne sont effectivement qu'un centre intermédiaire qui n'a vocation qu'à pencher d'un côté ou de l'autre. Et que eux sont nos adversaires dans la mesure où, de fait... ils sont opposés à nous parce qu'ils nous haïssent profondément et qu'ils ont des raisons de nous haïr. Et cette violence, elle s'inscrit effectivement dans un système moral qui a sa cohérence et qui plonge des racines très profondes.
Emmanuel Picot.
J'entends tout ce que Emmanuel dit depuis tout à l'heure et du coup je m'interroge sur ce qui va se passer maintenant. Est-ce que ce camp du bien dont vous parliez va changer de côté, est-ce que après on le disait, cet événement tragique qui c'est pas encore acté, mais on a quand même franchi un cap en termes de violence, est-ce que ça va débloquer certains esprits? On se rappelle, pour revenir à un temps un peu plus actuel, que lors des législatives 2024, l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon s'était allié avec un camp en particulier, celui d'Emmanuel Macron, pour battre le fameux camp du mal. Ce qui va être intéressant maintenant, c'est de voir est-ce que les mentalités vont évoluer, est-ce que finalement on va rester sur cette opposition du camp du bien et du camp du mal, entre la pseudo-extrême droite et l'extrême gauche en France, hein, y a pas tellement d'autres mots. Donc voilà, moi je m'interroge beaucoup sur ce qui va se passer maintenant, est-ce que ça va un peu évoluer sur cette question-là.
Emmanuel de Bonigny,
moi j'ai réponse. Subitement un triste souvenir qui me revient en tête, c'est qu'il y a quelques mois nous étions exactement à la même place et nous parlions des suites de Charlie Kirk.
Ouais, bien sûr.
Et nous posions la question du changement que ça pouvait provoquer. Moi je défendais plutôt une évolution des mentalités, et preuve en est que non, De fait, Trump n'a pas aidé avec les événements qui ont suivi à, à faire changer les mentalités. Mais de fait, les quelques prises de parole se sont limitées à ce que nous attendions, à savoir à nos partisans.
Aux gens de notre camp, hein, bien sûr. Pierre Galland, si vous vouliez rajouter un mot sur la question.
Non, bah, simplement, en effet, je pense que le... Et Emmanuel a très bien fait de rappeler en effet cette émission sur Charlie Kirk, parce que on avait débattu quand même très longtemps pour savoir ce qui allait devenir. De mémoire, moi j'étais plutôt sur la ligne, il va rien se passer comme d'habitude, parce que malheureusement...
Très élégant de votre part, Pierre.
Bien sûr. Non mais comme personne ne le rappelait, il faut bien que quelqu'un le fasse. Non mais voilà, de dire que malheureusement... Bah on a déjà eu dans notre actualité, on a eu des Thomas, on a eu des Lola, on a eu des Philippines, et malgré tout ça, ça n'a pas...
C'est différent, moi je fais une différence très nette alors, hein, entre les Thomas, Philippines,
non,
Lola,
bien sûr.
Qui sont...
C'était pas politique, évidemment.
Alors, oui, voilà. C'est pas du tout le même sujet, en tout cas.
Non, mais je dis pas que c'est le même sujet, mais si on veut faire la comparaison, ça n'a pas, dans les sujets concernés, fait de raz-de-marée ou de prise de conscience collective. Donc, dans le milieu de la politique et des idées politiques, je ne crois pas que ça suffise à faire bouger le centre mou dont on parlait tout à l'heure, parce que malheureusement, c'est pas nouveau. Ouais. La violence de l'extrême gauche, elle est documentée, elle est imagée. Enfin, on a des images. Enfin, il y a vraiment, c'est très étayé. Comme c'est pas un vague concept. C'est des accusations entre militants. On sait pas trop qui. Voilà, là, il y a des preuves, etc. Et malgré ça, ça n'a pas empêché un Raphaël Arnaud d'être élu député à l'Assemblée nationale.
Oui, je voulais juste rebondir. J'ai vu passer tout à l'heure un excellent commentaire de tout cela de la part de Joël Gana. Et il a livré une réflexion extrêmement juste.
Joël Gana, juste on le rappelle, donc militant identitaire bien connu, fondateur notamment de l'Alvarium, qui est aujourd'hui dissous, et par ailleurs candidat aux élections municipales à Ségré en Anjou.
Oui, c'est ça,
dans son village en Anjou natal, je crois d'ailleurs.
Ouais, et qui a très récemment, avant d'être candidat, été d'ailleurs victime d'une censure très étonnante et un peu effrayante. Ouais. De l'État. Mais je voulais dire que j'ai vu passer une réflexion de sa part que je trouve absolument... très intéressante, c'est qu'il disait que Quentin représente beaucoup la droite d'aujourd'hui pour plusieurs raisons. Déjà, évidemment, parce qu'il est jeune et qu'il y a un vrai renouveau du militantisme et que la jeunesse est très mobilisée et tous les mouvements dont la cocarde fait partie sont assez exemplaires. Ensuite, parce qu'il est converti, il est d'ailleurs converti à la tradition. Et je pense qu'il s'incarne, il rentre là aussi dans un mouvement qui est très profond dans notre société, mais qu'il est aussi fait partie d'une génération auquel les parents n'ont pas forcément beaucoup transmis. En tout cas, là, par exemple, c'est assez beau. C'est lui qui avait converti sa famille et il est le parrain de baptême
de son propre père. Ouais.
Et enfin, je trouve que c'est assez. Je ne sais pas si c'est exactement juste par rapport à lui, mais je pense que ça décrit un phénomène assez intéressant, c'est que de fait, il y a une rupture générationnelle dans les dernières années et qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas reçu beaucoup de choses. Je ne jugerai pas sur son cas particulier, notamment sur l'aspect politique, mais il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas reçu un héritage politique, qui n'ont pas reçu un héritage religieux, qui aujourd'hui retrouvent ça grâce à des personnalités qui ont émergé, qui ont fait un travail intellectuel, notamment des personnalités politiques, et qui aujourd'hui, avec un grand dévouement et une grande charité, s'accroche à ses combats et de manière assez brave porte ses convictions alors même qu'ils ne sont pas nés avec. Ouais. Et aujourd'hui d'ailleurs, pour finir un peu le portrait de ce jeune homme, c'est très touchant aussi de voir que c'est quelqu'un qui était donc très investi dans sa paroisse.
Et, dans la chorale, je crois.
Dans les maraudes. Et il ne venait pas d'un groupuscule.
Il faut bien préciser que c'est d'ailleurs ce qu'a précisé son avocat. Donc c'était certes un militant de la cause nationale, mais il n'était pas apparenté à un groupe. C'était pas un bagarreur du tout. Par ailleurs, c'était plutôt un profil étudiant, assez semble-t-il assez brillant. Je crois qu'il faisait des doubles études de mathématiques et de philosophie.
Je crois, oui.
Oui. Donc c'est vrai que. On est plutôt sur le profil d'un jeune gars qui a voulu rendre service. On sait que depuis quelques années maintenant, les actions de Némésis sont particulièrement ciblé par l'extrême gauche, hein, qui n'hésite pas à faire preuve d'une très grande violence vis-à-vis de portant de jeunes femmes. Donc on note par ailleurs que le féminisme de ces gens semble assez limité de ce point de vue-là.
D'ailleurs, toutes les organisations féministes de gauche avaient évidemment manifesté contre la dissolution de la Jeune Garde.
Bien sûr. Donc voilà, donc on est visiblement sur quelqu'un, effectivement, vous le disiez Emmanuel, qui a souhaité rendre service. Et qui s'est fait littéralement massacrer, il n'y a pas d'autre mot, par l'extrême gauche.
Et je ne sais pas si on arrivera à convaincre ni la gauche ni les centristes suite à ce triste événement, mais je pense que ça restera au moins pour nous un modèle de toute une génération qui a renoué, sauf si elle était déjà, s'il a déjà baigné dedans, avec tout un héritage culturel, religieux, politique.
Tout à fait. Messieurs, j'ai... Oui, Pierre, pardon.
Je sais pas, pour rebondir sur ce que dit Emmanuel, je sais pas en effet si on arrivera à convaincre le centre et la gauche, mais malgré tout, faut quand même le dire, on observe à gauche quand même une gêne, où on sent qu'ils savent qu'ils ont une part de responsabilité là-dedans, et dans toutes les condamnations qu'on a pu voir, parce que déjà ils sont tous les partis en tout cas, se sont exprimés, même si toutes les personnalités, on a dit Raphaël Arnaud, a été bien silencieux sur la question. Mais à gauche, ils ont été obligés de condamner quand même. On les a poussés à s'exprimer sur le sujet. Et on sent quand même une certaine gêne. Et là, j'ai sous les yeux la condamnation, par exemple, de François Ruffin, qui cite clairement « Il a été tabassé par des militants d'un groupe antifasciste à la suite d'un affrontement avec un collectif d'extrême droite. » Bon, évidemment, ils recontextualisent tous pour, d'une certaine façon, atténuer la responsabilité.
Déjà pour minorer, bien sûr.
Mais il y a aussi la condamnation de Raphaël Glucksmann où il cite aussi la mouvance antifasciste, etc. Et donc même la gauche là, et François Ruffin qui n'est pas le moins à gauche du spectre politique, c'est quand même qu'il y a une part de responsabilité probablement dans tout ça.
Mais on leur donne rendez-vous à la présidentielle.
Voilà.
Ah oui, non, mais bien sûr, mais il y a un vrai...
Il y a une vraie gêne de la gauche.
On sent quand même un vrai malaise qui est intéressant de noter par rapport aux fois précédentes.
Tout à fait. Il faut dire que si malheureusement Quentin venait à mourir, ce serait probablement, je pense, dans l'histoire politique française depuis 40 ou 50 ans, le premier militant de droite à être tué par la gauche... Le dernier étant Sébastien Desieux, qui a chuté d'un immeuble alors qu'il était poursuivi par la police, donc c'est pas exactement le même sujet. Donc ça serait véritablement une première et il serait intéressant...
Qui résulte en effet d'une agression directement politique, en effet, ce serait...
Qui serait intéressant de voir les conséquences sur les mentalités de chacun. J'avais une dernière question, messieurs, à ce sujet... Je vais faire un parallèle, vous allez me dire si vous le jugez pertinent ou pas. Je lisais il y a quelques jours, hier en fait pour être précis, le détail des amendements proposés par les forces de gauche à l'Assemblée nationale quant à relatif au projet de loi euthanasie. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de vous y intéresser un peu, il y a des amendements vraiment extrêmement sordides. Qui sont le fruit de la volonté de députés qui décident par eux-mêmes de rajouter, d'aggraver le plus possible ce texte. Il y a vraiment une espèce de glissade vers la folie à laquelle on assiste qui est assez glaçante. Et je pensais à ça, je pensais au culte de l'IVG qui est entretenu à gauche, je pensais aux réactions qu'ont suscité récemment les morts de Charlie Kirk, de Jean-Marie Le Pen... aux réactions que suscite déjà l'agression de Quentin dans les sphères d'extrême gauche. Et je me disais, mais est-ce qu'il n'y a pas un rapport à la mort extrêmement étrange dans la gauche? Est-ce qu'il y a une sorte de mélange de fascination et de... Enfin, je faisais un parallèle là-dedans en disant, mais il y a cette ombre-là qui plane sur ces sujets en permanence. Emmanuel.
Ce qui est paradoxal, je trouve, c'est que la gauche, en par définition athée ayant par définition comme seul absolu la vie, elle devrait d'une certaine manière la sacraliser. Et c'est d'ailleurs pour ça que Robert Badinter en 81 a aboli la peine de mort. Et il y a une forme de logique, c'est de dire à quel nom quelqu'un peut-il décider sans aucune conception transcendantale d'ôter le bien suprême à un autre que lui. Et en parallèle, vous avez raison, On voit sur tout le spectre sociétal, comme sur le spectre politique, avec la violence dont ils font preuve et le manque de retenue, c'est peu dire. Effectivement, un même goût, effectivement, un goût mortifère et une attention si faible pour la dignité humaine au sens propre et pour la vie. Et donc, c'est vrai que c'est assez absurde, évidemment, incompréhensible. En même temps, c'est sans doute la preuve de cette utopie, dans le sens où, à force d'adhérer à quelque chose qui n'est pas fondé dans la réalité, qui n'est pas fondé sur une transcendance, quelque chose qui se tient par lui-même, on tombe dans une logique un peu absurde, où pour maintenir ce système, c'est ce que dit Camus dans « L'homme révolté », la révolte n'a de sens que lorsqu'elle détruit ce qui la précède. Et donc, c'est une forme de spirale infernale qui peut mener jusqu'au pire totalitarisme.
Mais quand on a des députés à l'Assemblée nationale qui se comparent sans cesse à Robespierre, c'est pas forcément étonnant, en effet, de retrouver ce culte un peu mortifère. Et je rejoins tout à fait Emmanuel sur le côté un peu... beaucoup plus large de la question, de dire voilà, une fois que quand on est dans une fiction, et ben en fait forcément au bout d'un moment on finit par en trouver les limites et on est obligé de tomber dans une sorte de fuite en avant qui malheureusement risque de mal finir.
Alors je parlais de fuite en avant, je vous parlais pour entamer cette réflexion des amendements déposés. Je vous en cite quelques-uns quand même pour qu'on comprenne de quoi on parle. Parmi les amendements qui ont été acceptés, hein, donc qui ont été intégrés au projet de loi, vous avez la réduction du délai de réflexion réduit à 2 jours. Il y a un amendement qui propose que l'épouse ou l'époux de quelqu'un qui souhaiterait avoir recours à l'euthanasie n'a pas le droit d'en être informé. Il peut l'être, mais il n'a pas le droit, son droit à être informé n'est pas reconnu. Un fils ou une fille n'a pas le droit de contester judiciairement la décision d'un médecin qui choisit et qui validerait le recours
sous peine de 2 ans de prison et de 30 000 euros d'amende. Voilà.
Donc c'est pour vous dire, il y a quelque chose.
Et même d'ailleurs, pour compléter ça, la famille, mais même un psychologue ne peut pas le faire, par exemple. Enfin, c'est quand même gravissime. Les dispositions qui sont dans ce texte sont quand même tout à fait affolantes.
C'est vrai, voilà. Donc faut dire ça parce qu'on se dirige vers. Alors bon, ça m'a fait une transition un peu sauvage, ma question, mais bon, profitons-en. On est en train de se diriger vers probablement une des pires versions possibles qui pouvait exister de ce texte.
Même à l'échelle du monde.
On a l'impression que l'espèce de divine surprise qu'on avait eue au Sénat, avec le rejet un peu complètement inattendu du texte, moi l'impression que j'en ai, vous allez me donner votre avis, c'est que ça a peut-être énervé tous ces gens, et il y a presque une volonté de se venger, quoi, de rattraper le temps perdu, et on arrive à un résultat qui est complètement glaçant. Et juste avant de donner la parole à qui voudra, je précise que le calendrier, encore une fois, ne faisant jamais de hasard, le Canada a euthanasié hier ou aujourd'hui son 100 000e patient. En quelques années. 100 000.
C'est de la folie.
100 000. C'est de la folie.
Mais juste pour rappeler à nos auditeurs, en effet, pour qu'on comprenne bien le processus législatif, ça a été refusé au Sénat, c'est-à-dire que la copie qui est revenue à l'Assemblée était celle qui était arrivée au Sénat. Donc ça veut dire que l'intégralité des modifications, et il y en avait eu des très bonnes, puisque l'article 3 ou 4, je ne sais plus, justement, qui porte l'euthanasie avait été supprimé. Et donc c'est la copie initiale qui était donc bien pire que les modifications qui avaient été apportées par le Sénat. Et donc en fait ils sont partis de ça sans aucune modification, et donc ils ont pu avancer beaucoup plus facilement dans les mesures les plus sordides et les plus macabres, en l'occurrence. Et enfin, on en vient quand même à se demander jusqu'où peuvent-ils aller. Enfin, quand on voit que même un psychologue ne peut pas, si un pompier arrive au bord d'un pont parce que quelqu'un est en train de se suicider, ça veut dire qu'il faut pousser la personne sous peine d'être emprisonné. Enfin, on arrive dans une logique qui devient complètement contre nature même en fait, de simplement quelqu'un qui a envie de mettre fin à ses jours. C'est pas en deux jours qu'on peut prendre une décision libre et éclairée au-delà du fond de la question de la possibilité, même d'un point de vue purement moral. Si on considère que l'euthanasie c'est une question qui est ok, on ne peut pas se dire en deux jours c'est bon, la personne est libre et éclairée et prend une décision saine qui n'est pas sous le coup de l'émotion, de la douleur ou que sais-je. Donc il y a une vraie pression qui pourra être appliquée même socialement parce que il y a quand même beaucoup de malades qui se sentent de trop, il y a beaucoup de malades qui ont l'impression d'être un poids pour leurs proches, pour la société, et toute cette pression là en deux jours on peut pas se dire sainement on peut pas l'évacuer sainement pour prendre une réflexion purement réfléchie et éclairée.
Emmanuel Picot, pour repolitiser un peu le débat, ce projet de loi qui est officiellement appelé fin de vie, c'est une martingale du macronisme, c'était même une martingale du hollandisme à l'époque. On sait qu'il avait été, il était presque arrivé à son parachèvement au moment de la dissolution, qui avait réduit ses travaux à néant. On a l'impression qu'Emmanuel Macron et les macronistes ont décidé de faire de ce projet de loi le dernier cheval de bataille de l'ère du macronisme. C'est comme ça que vous l'interprétez, c'est un peu le baroud d'honneur, plutôt le baroud de déshonneur en l'occurrence, du macronisme, ce projet de loi.
Oui, j'allais dire effectivement plutôt déshonneur, mais je voudrais juste revenir une seconde. Alors je sais que c'est un avis que beaucoup partagent, sans doute beaucoup de nos auditeurs partagent, mais il y a beaucoup quand même de contre-témoignages des personnes qui, pendant leur vie, pendant qu'ils sont actifs, jusqu'à un âge qui leur permettent de vivre en tout cas en autonomie, comme on dit aujourd'hui, en autonomie, disent beaucoup, moi quand je serai plus autonome, quand je serai un poids pour ma famille, pour mes amis, pour les gens qui m'entourent, je veux être euthanasié. C'est vraiment un point pour moi, je veux pas gêner mes enfants, voilà. Et puis dans 90% du temps quand même, ces gens qui ont répété toute leur vie ne comptez pas sur moi pour rester en vie, je veux qu'on m'euthanasie, et quand ils sont dans la situation où ils sont de fait un peu moins autonomes et en tout cas plus dépendants des autres, c'est les premiers à dire, mais en fait, jamais de la vie, je veux rester, en fait, il est hors de question que vous m'euthanasiez. C'est en tout cas le premier point, le contre-exemple. Et puis après, de manière plus générale, effectivement, moi, j'ai plus beaucoup d'espoir dans les convictions politiques de certains responsables, notamment à gauche. Chez Emmanuel Macron, globalement, c'est à peu près la même chose. J'ai peu d'espoir dans ces convictions-là. On est effectivement sur une fin en déshonneur pour Emmanuel Macron, qui cherche un moyen, probablement par tous les moyens possibles, pour continuer à faire parler de lui. Peut-être prépare-t-il déjà un avenir un peu lointain. On sait qu'il pourra pas se représenter en 2027, mais 2032 arrive déjà très vite. Il y pense peut-être, je n'en sais rien, mais c'est des possibilités, et avec Emmanuel Macron
on n'est jamais à l'abri de rien.
Pierre
Galland, vous souhaitiez rebondir sur ce que disait Emmanuel.
Je voulais approfondir même ce qu'il disait, parce qu'en effet, c'est une vraie réalité sur les personnes qui parlent de l'euthanasie et qui, face à la décision, changent d'avis, même dans des situations de détresse psychologique, des personnes qui ont recours au suicide, ou en tout cas qui tentent de suicider, il y en a beaucoup qui, au dernier moment, ont cet instinct de survie et ce flash où en fait ils réalisent qu'ils sont complètement en train de se tromper. Et donc même dans une situation de détresse, malgré tout, il y a quand même toujours une envie de vivre qui est intrinsèque et qui reste. Et en parlant justement de détresse psychologique, ça a aussi été ajouté dans les motifs valables pour être éligible à l'euthanasie. Donc en fait, ça ouvre des portes immenses, parce que qu'est-ce qu'une détresse psychologique? Comment la quantifier? Comment la mesurer?
Comme à l'IVG d'ailleurs.
Comme à l'IVG, exactement, où en fait on entre dans une brèche immense qui pose des sérieuses questions éthiques.
Emmanuel de Bonnemugne, est-ce que tout est foutu? Je vous lance là-dessus.
Bonne question. Déjà, avant d'y répondre, juste pour, rebondir sur la question que vous avez posée au tout début sur l'aspect mortifère de la gauche. Je voudrais juste vous faire part d'une tribune que vous avez peut-être lue dans le Figaro cette semaine de Laurent Frémont, qui titrait de cette manière « Naître sous azote et mourir sous protocole quand la politique ne sait plus accueillir la vie ». Et c'est vraiment une très belle tribune qui montre à quel point, en fait, le macronisme et d'autres avant lui, évidemment, puisque les lois sociétales ne datent pas d'Emmanuel Macron, se sont évertués, en fait, à détruire tous les aspects de notre vie qui étaient pourtant liés à quelque chose de mystique, au moins de miraculeux, parce que même la mort correspond à une réalité qui nous échappe. Et en voulant la maîtriser, ils ont réduit notre existence à quelque chose d'absolument terrifiant. Et puis, sur le débat aussi que vous avez évoqué avec les différents amendements qui ont été déposés, il y a un amendement qui m'a beaucoup marqué, puisque il y a une des associations qui milite pour l'euthanasie, c'est l'association qui s'appelle l'Association pour le droit de mourir dans la dignité.
L'ADMD.
Elle a fait différentes propositions, dont une, la cinquième, qui est de supprimer le pronostic vital engagé, et donc pour permettre d'ouvrir très largement à toutes les pathologies l'euthanasie. Et en fait, ça renvoie...
Je crois que c'est la DMD aussi qui souhaitait l'ouvrir aux mineurs.
Oui, possible. Et d'ailleurs, parenthèse...
Globalement, toutes les pires mesures...
La DMD ne cache pas, et d'autres instances, les logiques financières. C'est-à-dire beaucoup de systèmes de santé,
il faut noter aussi que l'intégralité des grandes entreprises d'assurance et les mutuelles françaises font un lobbying prononcé en faveur de l'euthanasie pour
parce que forcément ce sont des économies immenses
des sous à la fin c'est absolument sordide.
Ça fait écho c'est Grégoire de Sos qui avait écrit un livre intéressant sur une comparaison de tous les pays qui ont autorisé l'euthanasie. Et en fait, sa conclusion est évidente, c'est quiconque a ouvert la boîte de Pandore a permis des dérives les plus affolantes. Mmh. Et là, on voit très bien venir ces dérives avec cette proposition. Et pour répondre,
sauf que d'habitude, les dérives arrivent plus tard. D'abord, on ouvre un peu là, on entre-ouvre.
Oui.
Là, c'est assez impressionnant de voir qu'ils essayent de tout faire passer d'un coup. Ouais. Et c'est d'ailleurs peut-être ce qui pourrait nous sauver en faisant changer d'avis des modérés qui se diraient là, pour le coup, c'est trop, il n'y a pas assez de lignes rouges. Mais il faut quand même le souligner que d'habitude, c'est beaucoup plus progressif.
C'est tout le sujet de votre question, Étienne. Et pour avoir un peu échangé avec des journalistes, notamment, qui ont assisté. À cette fameuse nuit au Sénat, en tout cas cette soirée au Sénat, où s'est joué le sort de l'article 4 au lendemain de l'arrivée du texte. Le texte est arrivé le mardi, le mercredi soir, ils ont tout bousculé et réussi à en fait faire tomber le texte avant même qu'il soit voté. Moi, de ce que j'ai compris, les camps sont assez réconciliables. C'est-à-dire que le débat était tellement étonnant, le scénario était tellement improbable... Et les débats parfois assez malhonnêtes, que les oppositions se sont cristallisées et que les différents camps changeront probablement pas leur position. Donc c'est peut-être ça qui peut nous faire espérer. C'est qu'en tout cas au Sénat, il y a peu de chances qu'ils soient convaincus par l'Assemblée, dans la mesure où déjà le Sénat est plus vieux, donc plus à droite. Et plus à droite, c'est pas forcément lié, mais voilà. Mais ça aide. Et qu'ils ont envie de se différencier, d'avoir une vraie valeur ajoutée dans le débat.
Oui,
et
mais,
voilà.
Mais Manuel, et par ailleurs, sans savoir qu'à la fin, c'est l'Assemblée qui aura le dernier
mot.
C'est vrai, mais ce sera très long, et c'est quand même une décision du gouvernement.
Exactement, c'est le Premier ministre qui peut très bien dire que ce sera le Sénat qui aura le dernier mot sur cette
action-là. Il faut qu'il y ait commission mixte paritaire, et qu'ensuite, après un échec, le vote revienne à l'Assemblée. Alors, Yael Beaupré était très clair en disant qu'elle voulait le faire passer, parce que c'était une attente profonde des Françaises, ce qui est absolument faux.
C'est faux, bien sûr.
Et d'ailleurs, il faut lire la note qu'a publiée la Fondapol à ce sujet, qui démonte le fameux sondage qui explique que 70% des Français sont pour.
Oui, avec une question biaisée au possible,
en fait,
qui dit voulez-vous que les Français puissent choisir leur fin de vie.
Et si vous vous rappelez, c'est un débat qu'on avait eu il y a quelques mois dans cette émission, où précisément on avait parlé de ce sondage qui était terrifiant, en se disant, mais mon Dieu, comment est-ce que ce chiffre peut exister. Et on disait déjà à l'époque que, en fin de compte, les Français, la question était posée de manière profondément malhonnête et que en disant oui à l'euthanasie, les Français disaient oui à autre chose en fait. Effectivement, c'est des soins palliatifs. Oui. C'est, et en fait, ce que réclament les Français et qui existe déjà au fond, c'est la loi Cleilonati
oui.
de 2016, qui est une très bonne loi, qui n'a besoin que d'une chose, c'est de financement.
Et non, d'être appliquée. Non,
et
d'être
appliquée.
Oui,
mais
dans beaucoup de dispositions, elle n'est pas appliquée. Et c'est surtout, effectivement, vous avez raison, des moyens. C'est-à-dire que quand on regarde le nombre de lits en soins palliatifs, quand on regarde juste la possibilité d'accès aux soins palliatifs, il y a des départements entiers
qui n'en ont aucun.
Qui n'en ont pas. Et quand on connaît la démographie française, on sait que ça va s'aggraver dans les années à venir. Et on se dit, mais.
Oui, c'est pas innocent que ça arrive maintenant.
Enfin, on a l'impression que tout est fait exprès, quoi. Et mais en revanche, le sujet de la Fondapol me fait penser à un motif d'espoir. C'est que. Moi, j'admire beaucoup l'engagement que j'aurais pas forcément imaginé, parce qu'il a pas toujours pris position avec autant de vivacité sur ces sujets-là, de Dominique Régnier, donc le patron de la Fondapol, est vraiment très exemplaire. Et je crois que, comme beaucoup de personnes qui s'engagent là-dessus, c'est lié à une histoire personnelle. Et je pense que c'est ce qui peut mobiliser beaucoup de gens sur l'euthanasie, c'est que, contrairement à l'IVG, c'est beaucoup plus facile de témoigner contre l'IVG. Il y en a eu récemment, la Manif pour tous l'a beaucoup fait, voilà, la Marche pour la Ville fait aussi, mais je sais pas comment dire, mais on a plutôt tendance à faire témoigner des gens qui sont pour. Là, c'est l'inverse, c'est plus difficile de faire témoigner quelqu'un qui est pour, quelqu'un qui dit j'ai envie de mourir, ça vend pas très bien, même si c'est Combini l'a fait à de nombreuses reprises et d'autres, alors que c'est facile et moi-même je serais prêt à le faire de faire témoigner des gens qui ont été dans des situations soit parce qu'un proche est mort ou a été en soins palliatifs, soit parce qu'eux-mêmes ont traversé des périodes comme ça. Et donc moi je pense qu'il y a une corde un peu sentimentale mais très juste qui peut réunir beaucoup de gens de manière transpartisane. Et l'exemple du Sénat le montre, puisque des communistes comme des députés de droite, des sénateurs de droite, ont voté de la même manière.
Merci Emmanuel. Alors nous avons conclu tout à l'heure le sujet Quentin en appelant à manifester dimanche à 16h. Je profite pour vous appeler également à manifester, puisque se tiendra pour les Parisiens, en tout cas, une mobilisation devant l'Assemblée nationale. Ce lundi à 18h.
Exactement, 18h30.
18h30, merci.
Lundi
merci
16
Pierre.
Février.
Donc qui est organisé, vous avez l'affiche sous les yeux.
Exactement, c'est angle rue de l'Université, rue Constantine, métro Invalide, donc.
Ouais.
Ce lundi 16 février à 18h30, qui est donc organisé par Alliance Vita, les AFC, l'OCH et le CPDH. Donc c'est un rassemblement interassociatif qui portera plusieurs messages. Donc oui, un accès donc effectif justement aux soins palliatifs sur tout le territoire, puisque c'est une nécessité et il faut accompagner nos malades en fin de vie. Voilà, il y aura des personnalités qui prendront la parole. Ce sera aussi évidemment l'occasion de dire notre opposition à ce projet de loi sur la partie euthanasie. Et autre action aussi qui est tout à fait faisable dès maintenant pour nos auditeurs depuis chez vous, vous pouvez écrire au Premier ministre, donc, puisqu'on le rappelait, c'est à lui que revient la décision de prendre deux fois publiquement et positivement la décision d'arrêter la navette parlementaire et donc de passer à la fameuse commission mixte paritaire et donc ensuite à la dernière lecture par l'Assemblée. S'il ne le fait pas, en fait, la navette peut continuer indéfiniment et donc... Pour le coup, tous les ministres se sont plus ou moins exprimés, soit quand ils étaient en fonction, soit quand ils ne l'étaient plus. Bon, Sébastien Lecornu a été depuis le début très discret sur la question, et donc c'est le moment aussi de l'interpeller pour qu'il soit face à ses responsabilités aussi et qu'il puisse éventuellement ne pas permettre que ce texte arrive au bout, parce qu'on voit quand même qu'il y a un certain nombre de dérives qui paraissent
les dérives d'ailleurs.
Que des dérives, mais il y a quand même des choses qui, même pour quelqu'un qui n'est pas forcément opposé à l'euthanasie, sont profondément choquantes et dangereuses.
Voilà, en tout cas, donc, pardon.
Je disais juste aussi qu'avant d'écrire au Premier ministre, on peut aussi écrire à son député.
Bien sûr.
Puisque donc, on le dit depuis tout à l'heure, le texte revient à l'Assemblée. Ça mange pas de pain. Comme on dit.
Et petite précision, pardon, Étienne, c'est que le plus efficace quand on écrit un député, c'est de demander à le rencontrer. Et en fait, moi, en parlant avec quelques associations, j'étais très étonné d'apprendre, enfin très étonné non, mais J'ai appris en tout cas que beaucoup de parlementaires, en fait, sont curieux et preneurs de, d'informations. Mmh. Et c'est la grande différence, comme je dis, avec l'IVG ou d'autres, c'est que c'est pas si idéologique que ça. C'est un sujet qui est compliqué parce que c'est un sujet de santé, c'est un sujet qui a tout un volet technique qui est lié aux politiques publiques. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire et qu'il y a beaucoup de chemin à faire parcourir par la pédagogie à chacun de nos députés.
Et ça évitera d'avoir un mail qui finira non lu par un député ou qui sera lu par un de ses collaborateurs, mais jamais transmis.
Il suffit d'écrire sur son adresse mail qui est disponible sur le site du Parlement.
Sur la nationale, tout à fait. Voilà, donc en tout cas, chers auditeurs, c'est l'occasion pour nous de vous rappeler qu'il y a toujours des façons de militer. Ça peut être en écoutant une émission, ça peut être en écrivant à votre député, ça peut être en vous mobilisant sur le terrain. Il y a 1000 façons de combattre. Le plus important, que ce soit pour l'euthanasie ou pour la défense de Quentin et des siens, il y a toujours mille façons de militer et de combattre. Il nous reste quelques minutes, 8 minutes précisément. Pierre, on va en profiter pour faire un petit point d'actualité un peu brut, parce qu'il y a quand même eu ce soir, sur les Champs-Élysées, une actualité un peu forte. Je crois qu'on peut parler d'une tentative d'attentat, enfin même d'une attaque au couteau en tout cas.
C'est une...
Racontez-nous ça.
Mais ce soir, donc, c'était vers 18h, 18h30, alors que vous savez, tous les soirs, il y a le ravivage de la flamme.
Tout à fait.
En présence d'anciens combattants, voilà, et de diverses unités militaires ou de police, ou même de. Il y a toujours donc des représentants des anciens combattants, il y a souvent des classes, des scouts, etc. Bref. Et donc, dans marge de la préparation de ce ravivage, un homme d'une quarantaine d'années s'est approché de musiciens de la gendarmerie, qui étaient donc là pour cet hommage, et les a menacés avec un couteau, et voyant que l'homme était vraisemblablement... déterminés à atteindre à leur intégrité physique, ils ont donc ouvert le feu. Donc l'homme a été neutralisé. Les forces de l'ordre n'ont pas été blessées a priori, selon les informations qui ont été remontées. L'agresseur a été neutralisé et a été pris en charge à l'hôpital pour le moment.
Non, il est décédé.
Ah pardon, j'avais pas eu la
suite de ses blessures.
J'avais pas eu la mise à jour, mais donc voilà, il est sur le profil de l'homme, puisque voilà, c'est aussi ce qui nous intéresse.
Vous nous avez envoyé pas mal d'informations.
Exactement,
tout à l'heure.
C'est un homme qui est donc.
On peut dire, Pierre, sans vouloir spoiler ce que vous allez nous dire, qu'il y a assez peu de surprises sur le profil du concerné.
Alors, pour ne pas dévoiler la fin, pour parler en bon français, chez Étienne. C'est un homme donc de 43 ans qui vivait donc à Aulnay, qui était connu et fiché pour radicalisation, et qui dans ce cadre-là devait pointer quotidiennement au commissariat. Ce matin, il ne l'a pas fait. Et donc forcément, quand on ne pointe pas, on est appelé assez rapidement par les fonctionnaires de police qui nous demandent ce qu'il en est. Il leur a répondu en leur disant...
Quand vous dites « nous », Pierre, c'est que vous êtes concerné ?
Non.
Vous êtes radicalisé, Pierre ?
Pas à ma connaissance. Il a répondu ouvertement donc aux fonctionnaires de police que il allait planter des policiers ou des gendarmes, je sais plus quelle était la formulation exacte, mais que en gros voilà,
il a pas fait la distinction, il a dit des gens qui ont des armes.
Que en gros l'idée c'était, enfin il a clairement il a clairement annoncé ses intentions en disant voilà, je vais faire ça à l'Arc de Triomphe et on verra bien qui triomphera. Fallait pas tuer nos femmes et nos enfants à Gaza. Et donc voilà,
avec ses références à Gaza explicitement.
Il a explicitement fait référence au conflit à Gaza. Et donc cet homme était aussi connu à Molenbeek, donc en Belgique, pour terrorisme, et où il avait justement déjà...
Oui, c'est vraiment absolument toutes les cases sont cochées.
Il coche
toutes
les cases, donc Brahim B, pour cocher une case supplémentaire. Et donc cet homme a donc été abattu par les forces de l'ordre ce soir, puisqu'il est passé à l'acte précisément sur... Il avait clairement annoncé ses intentions, il est est passé à l'acte, il a tenu parole et donc le parquet antiterroriste s'est saisi de l'affaire. Et donc on verra les suites qui seront données à cet événement.
On a à peine l'impression d'être pris en étau entre des gens qui viennent chez nous qui veulent nous buter et des gens qui étaient déjà chez nous qui veulent nous buter.
C'est justement le grand drame que dénoncent certains, où en fait on est justement face à une menace islamo-gauchiste littéralement, où en deux soirs on voit l'islam et le gauchisme qui tuent les deux.
Et les victimes sont toujours les mêmes également. Merci Pierre pour ce bref point d'actualité. Donc écoutez, on salue les forces de l'ordre, bien sûr, qui sont intervenues avec efficacité. Il nous reste 3 minutes, messieurs. Est-ce qu'on ferait pas notre petit tour de lecture habituel, Emmanuel?
Mais
lisez-vous en ce moment?
Malheureusement, cher Étienne, je vais vous décevoir.
Oh là là, vous êtes toujours sur les deux étendards, c'est
mais
ça?
Mais je n'ai pas fini les deux étendards. C'est toujours aussi bien, mais malheureusement, le livre a une faiblesse, c'est que il se transporte pas aisément dans le métro.
Ça, alors il faut rappeler aux auditeurs qui n'ont pas lu les deux étendards dans leur version éditée chez la NRF, qu'on est sur un pavé de 1300 pages en papier bible, donc je confirme qu'il est assez peu déplaçable.
Voilà.
Ce n'est pas un livre de métro. Où en êtes-vous du coup, Emmanuel?
J'en suis un peu, je dirais, à la moitié. Et puis que dire, je pense que pour les auditeurs qui ne l'ont pas lu, c'est trop compliqué.
Oui, bon,
je peux que vous conseiller très chaudement de le lire
pour en débattre.
Et ils nous font évidemment une émission sur Radio Courtoisie absolument dédiée à ce livre.
J'ai quelques clients qui voudraient participer. Emmanuel Picot, la lecture du moment.
Écoutez, je découvre cette tradition puisque vous l'avez rappelé au début, c'est ma grande première dans cette émission, et au risque de vous décevoir, vous l'avez également rappelé au début de cette émission. Je suis responsable de Génération Zemmour pour l'Île-de-France, et ça vous a pas échappé qu'effectivement en ce moment on est en campagne pour les élections municipales. Et
vous êtes en train de me dire que la lecture du moment, ce sont les tracts de Sarah Knafou.
Ce sont entre autres les tracts de Sarah Knafou, son programme qui fait 130 pages,
donne
beaucoup de lectures. Je n'ai hélas pas le temps de lire, mais je peux vous parler de ma dernière lecture. Je ne m'en lasse pas, vous allez penser que c'est une blague, mais j'ai relu l'Histoire de France de Bainville.
Alors, certainement pas une blague.
Et c'est une lecture dont je ne me lasse pas.
Vous êtes sur un plateau de convaincus sur la question.
Pierre, il nous reste une minute, vous avez 10 secondes pour votre lecture.
Et ça va être très rapide parce que, un peu comme Emmanuel, le temps en ce moment dans l'actualité, avec l'actualité, me manque un peu. Et donc, depuis la dernière fois, je n'ai pas eu le temps de lire un nouveau livre, malheureusement.
Quelle tristesse.
Exactement.
Et vous, Étienne, je suis rapide en 10 secondes.
On va faire très vite, je suis en train de relire Splendeur et misère des courtisanes de Balzac.
Oh, formidable.
Voilà, parce qu'on ne relit jamais assez Balzac. Chers auditeurs, je vous remercie une nouvelle fois d'avoir écouté Prolongation. Je remercie mon ami Stanislas Rigaud d'avoir bien voulu me confier le micro et la direction de cette émission. Nous renouvelons nos pensées et nos prières pour Quentin, pour sa famille, pour ses camarades. Nous vous invitons chaudement à prier pour lui, à vous mobiliser dimanche à Paris à 16h ou dans votre ville en fonction des différentes manifestations qui pourraient être organisées. Et merci, à bientôt. Au revoir.
Vous venez d'entendre Prolongation, dirigée par Étienne Darjac et diffusée en direct sur Radio Courtoisie vendredi 13 février 2026 de 21h30 à 23h et réalisée par Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr. Y accéder à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.